Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.
Ce qui est une énergie d'avenir, c'est le photovoltaïque, c'est l'éolien. C'est les énergies renouvelables et le nucléaire est en perte de vitesse, voire en déclin net, très net dans le monde entier. Donc c'est un bilan, ça, c'est pas idéologique en fait, c'est juste factuel et ça, c'est jamais dénoncé ni défendu par la presse. En France, on n'entend que parler du futur du nucléaire, des futurs réacteurs qui seront plus petits, plus performants, plus sûrs, etc. Et en fait, concrètement, les réacteurs actuels sont toujours plus chers à construire, les chantiers sont toujours plus longs, les problèmes de sécurité sont toujours plus nombreux. Dans le nucléaire, il y a vraiment une impasse, quoi, en fait, un système qui ne fonctionne pas. Et c'est une réalité, ça, c'est pas être anti-nucléaire que de dire.
Bonjour
ça.
À toutes et tous, vous êtes sur le MAC de l'environnement pour la deuxième émission à propos de la lutte anti-nucléaire. La première émission a été diffusée mi-janvier. On est cette semaine avec Hervé Loquet, Joël Montagnac et Anthony Hadjadj.
Je suis Anthony Hadjadj, je suis un coordinateur du groupe local de Greenpeace Narbonne et aussi référent de transition énergétique et nucléaire.
Joël Montagnac, militant anti-nucléaire par SDN 11 et aussi au collectif Vigilance Malvésie.
Hervé Loquet, donc militant aussi du collectif Vigilance Malvésie.
Et nous voulons développer un peu le manque d'informations par les médias locaux.
Tu trouves que c'est compliqué de faire parler du nucléaire dans la presse locale ?
Oui, parce que l'indépendant ont des intérêts financiers avec Orano. De temps en temps, nous avons une double page publicitaire d'Orano dans l'indépendant. Je ne sais pas le prix, je ne suis pas financier, mais je pense que ça doit représenter quand même des sous. Et que c'est bien pratique d'avoir des aides financières pour arriver à tenir un journal local.
Mais en réalité, dès que l'industriel fait une annonce, il a les pleines pages dans ces journaux-là. Et dès que nous, on fait une action, quand on a la chance d'avoir des journalistes qui viennent, c'est arrivé quand même parfois, on a toujours en face l'industriel qui va faire un démenti ou qui va nous contredire. Donc, c'est vraiment pas pondéré, en fait, comme discours. Il y a vraiment un biais, en fait, dans l'information. Il y a beaucoup d'affirmations de la part de l'exploitant, de l'industrie nucléaire en général, qui prétend, par exemple, qu'il n'y a aucun impact sanitaire. L'usine de Malvésie n'aurait aucun impact sanitaire sur le Narbonnais. Aucun. Zéro impact sanitaire. Il y aurait quelques mesures d'impact, on va dire, au niveau environnemental, quelques rejets, hein, des traces, mais les effets de ces rejets sur la santé publique sont considérés comme nuls. Donc ce genre d'affirmation-là, ça passe dans les médias sans aucun problème. Et par contre, dès qu'on essaye de ne serait-ce que de mettre en doute cette affirmation, on est peu relayé, voire contredit. Alors que la charge de la preuve devrait reposer sur l'exploitant. En fait, c'est à lui de démontrer qu'il n'y a aucun impact sanitaire. Ça ne suffit pas de l'affirmer, en fait. Il faudrait déjà le prouver, faire des recherches, faire travailler des scientifiques. On part du principe que l'industrie nucléaire a raison et qu'il n'y a pas vraiment de débat. Les gens qui contestent, ils vont apparaître de manière un petit peu épisodique quand il y aura un événement un petit peu différent. Par exemple, il y a eu le procès de Michel Leclerc, qui est un ancien travailleur de l'usine, a fait beaucoup le buzz à un moment donné parce qu'il a quand même gagné aussi certaines reconnaissances de sa maladie professionnelle qui était liée à l'uranium. Ça a fait un petit peu de bruit quand même dans la presse, mais en général, les campagnes de communication, de publicité d'Orano continuent de passer en affirmant qu'il n'y a aucun impact sanitaire sur l'usine, alors que il y a quelques années, on a bien eu un cas d'une personne qui a été malade à cause de l'usine et qui est aussi apparue dans la presse. Donc, il y a une espèce de double discours pour que ça pose question. Et ne serait-ce que de se poser les questions, c'est déjà quasiment être considéré comme anti-nucléaire primaire.
Sowas kommt.
Ce qui est problématique, c'est évidemment les effets, la pollution de la production d'énergie, quelle que soit la source, ça crée des nuisances, que ce soit éolien, solaire, charbon, nucléaire. Il y a des nuisances dans toutes les productions d'énergie électrique.
C'est le MAC de l'environnement pour la deuxième émission sur la lutte antinucléaire.
C'est que le nucléaire n'émettrait pas de CO2. Cet aspect-là en ferait une énergie qui serait à la fois donc vertueuse et en même temps nécessaire, quoi. Du fait qu'elle n'émet pas de CO2, elle permet de remplacer du charbon ou d'autres productions d'électricité qui seraient plus polluantes. On voit à travers différents exemples dans le monde, mais on voit bien que déjà, d'une part, l'industrie nucléaire a du mal à construire des nouveaux réacteurs dans le monde entier, a du mal à se renouveler, donc elle est plutôt en perte de vitesse, en déclin. Et par contre, effectivement, les émissions de CO2, elles augmentent un petit peu partout dans le monde, en grande partie dû au transport. Et les pays qui ont fait le choix de renoncer au nucléaire, comme l'Allemagne, hein, qui ressemble beaucoup à la France, un peu plus de population, mais sinon c'est à peu près le même type de pays. Donc il y a une sortie du nucléaire depuis les années 2010-2011, depuis l'accident de Fukushima. Pourtant, les émissions de CO2 ne font que diminuer depuis lors, et alors qu'on prétend que l'Allemagne a recours au charbon pour sortir du nucléaire. En tout cas, globalement, leurs émissions de CO2, elles n'ont fait que diminuer depuis 10 ans. Donc c'est bien la preuve qu'on peut sortir du nucléaire et limiter les émissions de CO2.
Alors les gens disent que les Allemands, ils achètent notre électricité nucléaire et que c'est pour ça...
En fait, le marché électricité, c'est assez complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des moments dans la journée où l'électricité est beaucoup plus chère, comme le soir, en fin de journée, l'hiver. Et il y a des moments dans la journée où elle est très bon marché, comme l'été, la nuit, par exemple. Et en fait, nos centrales nucléaires, elles produisent à peu près tout le temps. Enfin, elles ont une production assez rigide, qui n'est pas très modulable. Et donc, dans ces moments-là où on n'a pas besoin d'électricité, on en a trop. Et c'est là où on en revend, on la brade en fait à nos voisins, allemands, espagnols. Et par contre, dans les moments où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire le soir, l'hiver, en soirée, au moment où tout le monde rentre chez soi, là on n'en a pas suffisamment avec nos réacteurs nucléaires. Et là, c'est les Allemands qui nous la vendent à prix d'or, ou les Espagnols. Donc en fait, on avec nos centrales nucléaires, effectivement, au niveau du bilan énergétique, on est plus ou moins à l'équilibre. Des fois, on exporte un peu plus que ce qu'on importe. Bien que c'est pas le vrai tous les ans, il y a des années où on importe plus qu'on exporte. Enfin, globalement, ça s'équilibre à peu près. Par contre, au niveau économique, le modèle français, il est pas bon. En plus, le chauffage électrique coûte très très cher aux particuliers et ça présente un rendement assez faible par rapport à la quantité d'énergie qu'il faut produire dans les centrales nucléaires pour l'acheminer jusque dans les habitations via le chauffage électrique. C'est assez médiocre comme rendement. C'est un système qui est pas économe, qui est pas tellement rentable. Et effectivement, on peut se targuer d'avoir revendu l'électricité aux Allemands, mais souvent, c'était au moment où on n'en avait pas besoin, donc ça n'a pas tellement d'intérêt, en fait.
Oui, parce qu'en fait, une centrale au charbon ou au gaz pour faire de l'électricité, en fait, quand on n'a pas besoin, on l'arrête au lieu de continuer à cramer, alors que les centrales nucléaires, elles tournent en permanence.
Oui, elles tournent en permanence et elles doivent être refroidies en permanence. C'est une question de sécurité aussi. Donc, même à l'arrêt, il faut continuer de refroidir les cœurs des réacteurs. Donc, c'est vraiment une industrie qui a du mal à s'arrêter, en fait. Les combustibles qui sont mis dans le réacteur, ils durent 3 ou 4 ans avant qu'on les change. Donc pendant 3 ou 4 ans, elle va tourner quasiment non-stop, sauf problème majeur en fait.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une source d'énergie qui symbolise le gaspillage en fait, le nucléaire?
Oui, c'est ça, c'est un gaspillage. C'est un gaspillage qui a beaucoup de nuisances invisibles. Dans les années 80, en fait, on a construit énormément de réacteurs nucléaires et donc il a fallu écouler toute cette électricité qui était produite. Et pour ça, EDF a mis en place des nouvelles normes et des campagnes de promotion, Promotelec, dans lesquelles ils font la promotion de l'électricité pour tous les usages de l'énergie dans les habitations, donc que ce soit la cuisson, le chauffage de l'eau, le chauffage de l'air, de l'habitation. Tout était bon pour... Et puis tous les appareils électroménagers, les robots électroménagers, l'aspirateur, etc. Tout l'électroménager a été développé dans ces années-là. Donc une fois que tous ces équipements ont été en place, ça a permis de vendre l'électricité qui était produite aussi. Ces choix-là, ils poussent à la consommation, en fait. Ils poussent au gaspillage. C'est pas des choix qui sont orienté vers la sobriété ou même vers l'efficacité. Quand il y a des parcs locatifs de logements sociaux qui sont construits, en fait, c'est prévu quasiment dès le départ dans le cahier des charges et dans la manière dont les architectes travaillent sur le projet, c'est prévu que ce serait chauffé à l'électricité. Il n'est pas envisagé d'alternative, en fait, dans ces logements sociaux ou autres. Et alors que il existe quand même des chaufferies bois dans certains, notamment à Carcassonne, je crois qu'on a une chaufferie bois au Viguier. Donc il y a quand même certains équipements collectifs qui peuvent se mettre en place, mais souvent ils sont pas favorisés par les normes électriques ni dans lesquelles on va essayer de pousser au contraire la consommation, d'imposer le maximum de prises partout dans les pièces, d'imposer le maximum de chauffage électrique, et alors qu'il y a plein d'alternatives qui existeraient pour se chauffer bien sûr, mais pour le reste aussi il y a tout un tas d'alternatives. Il y a aussi la conception des bâtiments qui peut être faites en sorte que l'éclairage soit naturel, le chauffage puisse être davantage fourni par l'énergie solaire, et puis l'isolation des bâtiments aussi qui permet de limiter la consommation d'énergie. Donc tout ça, ça peut se penser dès la conception, mais souvent, malheureusement, ce qui est mis en avant dès la conception, c'est le chauffage électrique en France. Si on enlève le chauffage électrique, si on arrive à faire de l'eau chaude sans électricité avec un panneau solaire, ou ça permet d'avoir à peu près un foyer qui consomme 2700 kWh par an, c'est une moyenne nationale. Pour un foyer qui n'aurait ni chauffage électrique ni eau chaude électrique. Et ensuite, il y a certains usages qui sont complètement aberrants, les panneaux lumineux, notamment dans les villes, les panneaux déroulants, panneaux publicitaires déroulants, ça consomme de l'ordre de 2000 kWh par an, donc c'est l'équivalent d'un foyer. Et ce genre de consommation devrait être interdite tout simplement, puisque c'est aberrant de consommer autant d'électricité pour de la publicité, qui est un besoin vraiment mineur de la population.
Si on décidait en France, aujourd'hui, là, d'arrêter le nucléaire, d'arrêter les dépenses qu'on ne maîtrise pas, et puis d'arrêter ce risque, qu'est-ce qui se passerait exactement ?
Ça prendrait du temps. C'est sûr qu'on ne peut pas arrêter tous les réacteurs et toute une filière du jour au lendemain. Et ça prendrait d'autant plus de temps que les déchets qui sont produits dans ces centrales sont à durée de vie très très longue. Donc il faudra de toute façon envisager des systèmes de gestion des déchets sur des décennies, des centaines d'années. Tout ça, c'est clair que c'est indispensable. Et pour ce qui est de la production d'électricité, ben on peut penser que si on arrête tous les réacteurs qui ont déjà dépassé 40 ans et puis que ensuite on les arrête progressivement, les plus récents, ça va prendre quand même un certain temps. Le dernier qui a été construit, c'est Civaux, je crois, et c'était dans les années 90. Donc il faudrait viser au moins 2030, peut-être 2040, pour arrêter les derniers réacteurs les plus récents. Ce qu'il faut voir, c'est que en parallèle, ce qui se passe dans le monde, c'est qu'il y a une croissance des énergies renouvelables qui est incroyable, que ce soit l'éolien, le solaire, mais surtout le solaire photovoltaïque. On anticipe pour les 5 ans à venir la plus forte croissance jamais vue en production d'énergie renouvelable au niveau de l'Agence internationale de l'énergie. Les derniers chiffres sont vraiment exceptionnels. Et donc, on pourrait atteindre les objectifs, soi-disant, de la COP28, de tripler la capacité mondiale d'ici à 2030 en termes d'énergie renouvelable, économiser en limitant les usages les plus aberrants, en diminuant, en améliorant l'efficacité énergétique des appareils, des bâtiments. Il y a beaucoup d'économies possibles. On le voit en Allemagne où la consommation d'électricité, elle baisse depuis plusieurs années nettement, et même au niveau européen, on a vu que la consommation d'électricité, elle a baissé de plusieurs pourcents en l'espace de 4 ou 5 ans. Et que si on investissait tous les milliards qui sont actuellement mis dans l'énergie nucléaire en France, si on les investissait dans les économies d'énergie, c'est clair qu'on pourrait vraiment progresser et se passer de quelques réacteurs assez rapidement.
Une électricité non polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc à partir de là, si on baisse les consommations, l'angoisse de la production s'amoindrit et maîtrisable au niveau des citoyens. Et donc déjà, arrêtons le gaspillage de l'électricité, isolons les maisons, et après nous verrons bien si on a besoin encore du nucléaire pour vivre en France.
Quand ils ont lancé le projet de réacteur à Flamanville, le nouveau réacteur nucléaire, dans les années 2007-2008, il y a un bureau d'études qui s'appelle les 7 vents du Cotentin qui avait fait le calcul. Avec les 3 milliards qui étaient prévus pour ce réacteur, ils auraient pu générer 10 fois plus d'emplois et produire autant d'électricité à partir du renouvelable ou des économies d'énergie ou de l'efficacité énergétique qui auraient été développées grâce à cet argent. Et aujourd'hui, le coût du réacteur, c'est plus de 20 milliards, je crois. Donc en fait, on a une manne financière matière là qui aurait pu être investie dans les économies d'énergie, qui aurait produit beaucoup plus d'emplois pour le Cotentin. Et c'est vraiment de l'argent qui est dilapidé en fait. Et on le sait en fait, depuis l'origine du projet, ça a été annoncé. Et pendant l'enquête publique de ce projet de réacteur, ça a été dénoncé par plusieurs acteurs. Il y avait France Nature Environnement, il y avait le réseau Sortir du Nucléaire, Greenpeace, il y avait beaucoup d'associations qui se sont mobilisées, qui ont rédigé des cahiers d'acteurs. En fait, c'était officiel et publié, mais ça n'a pas été écouté par les politiques de l'époque. Bon, Nicolas Sarkozy a fait le choix de lancer ce réacteur. Il a fait aussi le choix de vendre du nucléaire en Libye. Bon, on a vu les conséquences. Au final, il n'y a jamais eu de réacteur en Libye. Par contre, aujourd'hui, c'est le chaos. Donc, c'est des choix politiques qui sont lourds et qui montrent quand même toute l'aberration qu'il y a autour de ces projets. C'est vraiment une fuite en avant. Voilà. Et c'est même pas d'être anti-nucléaire que de le dire, en fait. C'est juste de voir que c'est une réalité qui tient pas debout, quoi. C'est une aberration, en fait. Même si on admet que le nucléaire peut être une énergie comme une autre pour produire de l'électricité, la direction dans laquelle ça nous emmène, c'est complètement fou en fait. C'est à la fois antidémocratique, c'est dangereux, c'est ruineux, c'est coûteux. Voilà, et du coup, ça semble aberrant de relancer cette industrie qui nous mène dans un mur alors qu'on n'en a pas besoin, quoi, en fait. On n'en a pas besoin si on regarde juste la production d'électricité. On en a besoin, peut-être, c'est ça qui motive les décideurs, c'est que ça donne plus de contrôle, plus de pouvoir, ça donne des possibilités aussi d'armement qui sont très massivement, enfin des armes de destruction massive, parce que c'est lié, quoi.
Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et y a plus rien, y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi.
Suite aux annonces d'Emmanuel Macron pour relancer le parc nucléaire, on a décidé avec SDN, donc sortir du nucléaire, et ADN, arrêt du nucléaire. Il va y avoir une mobilisation régionale pour l'anniversaire de Tchernobyl le 26 et le 27 avril. Le message, c'est s'opposer à la relance du parc nucléaire en France qu'a proposé Emmanuel Macron.
Vous êtes sur le MAC de l'environnement pour la fin de l'émission sur la lutte antinucléaire.
Et au niveau mondial, en fait, la construction de nouveaux réacteurs en Europe, c'est assez simple. On a Flamanville, qui est un chantier qui a démarré, un projet qui a été lancé en 2007 et qui n'a toujours pas vu le jour en 2023, et dont le prix est passé de 3 milliards à 20 milliards, donc décuplé. En Angleterre, on a le projet, les deux EPR de Hinkley Point, qui ont doublé aussi, la facture est passée de 15 à 30 milliards d'euros pour deux réacteurs. En Finlande, il y a un réacteur qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Olkiluoto, et qui s'est retrouvé à l'arrêt pour des problèmes de vibration. Enfin, c'est assez complexe, mais au niveau de combustible nucléaire, au niveau des tubes de combustible, les crayons, il y a des phénomènes qui sont incontrôlés, peut-être dus au gigantisme de ces réacteurs qui sont plus puissants que les réacteurs anciens. L'EPR est encore plus puissant et ça pose des problèmes de sécurité et de stabilité, en fait, au niveau du combustible. Donc, je saurais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais donc, c'est un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, qui a poussé à l'exploitant de Old Kyoto en Finlande a arrêté son réacteur. Et ça pose le même problème en Chine, parce qu'en Chine, il y a eu des EPR qui ont été construits à Taishan, qui ont été aussi mis à l'arrêt à plusieurs reprises. Alors, on n'a pas toutes les informations, parce qu'en Chine, l'information est très contrôlée par le pouvoir central. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que EDF est intervenu plusieurs fois pour expertiser ces réacteurs et que, manifestement, il y a des problèmes au niveau de la sécurité de ces réacteurs EPR, ces nouveaux EPR. Donc, ce qui fait qu'au niveau mondial, les EPR, c'est pas du tout une réussite et que ça se développe pas du tout. Et il y a d'autres fournisseurs qui construisent beaucoup plus de réacteurs, c'est les Russes avec Rosatom, l'industriel russe qui construit les réacteurs en Russie, au Bangladesh, en Turquie. Donc, l'industriel qui a le plus de projets de réacteurs, c'est Rosatom, en fait, c'est les Russes. Donc là aussi, les Russes sont pas très célèbres pour leur transparence, donc on sait pas trop, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en Turquie, leur projet, il avance. C'est un projet qui est sur la mer méditerranéenne, pas très loin de la Syrie, tout près, en face de Chypre. Donc c'est une zone proche du Kurdistan où il y a eu beaucoup de problèmes de terrorisme récemment, où il y a la guerre en Syrie et avec Daesh, etc. Ça semble assez fou de construire une centrale nucléaire dans cette zone, mais bon, les Russes n'ont peur de rien. Et puis les réacteurs en Europe ou en Amérique, encore plus, ils sont pas construits parce qu'il y a des manques au niveau de des financements aux États-Unis. Ils trouvent pas de financement pour faire des nouveaux réacteurs, donc ils les construisent pas. Notamment les petits réacteurs modulaires, là, les SMR, qui ont été vendus dans la presse ces dernières temps. Aux États-Unis, finalement, tous les investisseurs se sont retirés. Donc, ils vont même pas pouvoir en construire un seul aux États-Unis, alors que c'était soi-disant à l'avenir. Même Elon Musk en a fait la promotion. Enfin, c'était soi-disant le nouvel Eldorado du nucléaire. Et en fait, concrètement, les États-Unis, dès qu'il s'agit de mettre la main au portefeuille, ils refusent parce que ça pose trop de problèmes en termes d'assurance, en termes de suivi dans la durée. C'est des coûts qui sont faramineux et qu'on maîtrise pas. Donc il faut qu'il y ait un pouvoir central fort comme la Chine ou comme la Russie pour pouvoir imposer le financement.
Rejoignez-nous le fin avril, le 26 et le 27 pour l'anniversaire de Tchernobyl pour dire non à l'extension du parc nucléaire en France. Si des gens sont intéressés pour avoir des informations par rapport à Greenpeace Narbonne, ils peuvent se renseigner sur la page Facebook groupe local Greenpeace Narbonne ou sur l'Instagram.
C'était le Mac de l'environnement pour cette seconde émission à propos du nucléaire. Si les histoires d'énergie vous intéressent, Jean-Baptiste Fressos, qui est historien des sciences et techniques et surtout des histoires d'énergie, vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Sans transition ». On trouve aussi une vidéo de lui sur YouTube très très intéressante sur l'histoire de l'énergie. Voilà, histoire de se réapproprier des connaissances qui nous permettent aussi de faire des choix. Merci encore à Hervé, Anthony et Joël pour leur participation et à bientôt.
C'était le Mac de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Lingodoc Narbouno, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.